Bonjour.
Ce titre, il se veut volontairement très provocant.
Oui, essentiellement, moi, quand j'ai sorti mon livre du côté du Québec, il s'intitulait « Hostifif », parce que nous, SALPD, ça veut rien dire. Donc, oui, on le veut provocant parce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes qui s'expriment ainsi devant les enseignants à l'école et souvent on banalise ces insultes. Et pour les jeunes qui sont en train de réaliser qu'ils éventuellement vont être homosexuels, ça peut être une pression qui peut brimer leur estime de soi.
Alors, le harcèlement scolaire, c'est hélas un phénomène qui est toujours d'actualité. Vous, c'est dans les années 70, comme on dit chez nous, hein, que vous avez été harcelé. Un harcèlement physique, psychologique, qui s'est poursuivi pendant des années et qui a laissé des traces indélébiles.
Oui, et c'est d'ailleurs pourquoi je voulais écrire le livre, parce que mon histoire se raconte il y a 33 ans, mais essentiellement encore des jeunes aujourd'hui vivaient la même problématique. Alors j'ai décidé aussi de lancer une fondation pour faire un peu élever les consciences face à ce phénomène. À mon époque, on ne connaissait pas les conséquences du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, c'est assez clair. On sait très bien que le harcèlement scolaire, c'est une des premières causes du décrochage scolaire chez les jeunes. On sait également que les jeunes vont développer des troubles d'anxiété, de dépression. Et on dit aujourd'hui, selon les études, qu'un jeune sur deux qui va traverser des périodes prolongées de harcèlement scolaire aura également des problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Donc, je crois sincèrement que c'est un problème auquel il faut adresser des solutions rapidement.
Faire connaître le harcèlement par le public aussi, par les autorités, c'était aussi un moyen pour vous de vous libérer?
Non, pas vraiment, parce que j'avais vraiment fait une psychanalyse. C'est vraiment un héritage. C'est sûr que avec le temps, j'ai l'impression d'être beaucoup plus résilient avec mon engagement social. Et j'ai l'impression aussi que ça a été utile pour ma société au Québec suite à la sortie de mon livre et à toutes les actions que j'ai entreprises dans l'espace public parce que j'étais connu. Ça l'a beaucoup fait avancer le dossier à une vitesse assez rapide. C'est assez rare qu'un dossier au Québec avance aussi rapidement.
Les enfants sont cruels entre eux, c'est ce que l'on entend souvent. Est-ce que vous avez l'impression que les adultes ont tendance à minimiser les effets de la violence des enfants, justement, en cours de récréation notamment?
Oui, je crois que oui, il y a beaucoup de banalisation et on est en changement de culture, je le dis souvent. À l'heure actuelle, nous, enfin ma génération, probablement votre génération aussi, on ne parlait pas d'harcèlement à l'école, donc on a été poussé des fois même à se battre à l'école par nos parents. On se faisait dire « allez, vas-y, laisse-toi pas faire ». Et aujourd'hui, si on veut que la violence et le harcèlement cessent dans les écoles, ben il faut travailler autrement. Et les enfants sont méchants entre eux. Je ne suis pas si sûr que ça. Est-ce qu'ils font pas qu'imiter un peu les adultes aussi? Il faut être aussi des modèles positifs parce que l'empathie, d'ailleurs une étude à Harvard aux États-Unis qui a démontré que l'empathie était plutôt naturelle chez l'enfant et que c'est les mauvais modèles autour qui brisaient l'empathie.
Parce que dans le témoignage que vous livrez dans ce livre, il y a ces années, ces longues années de harcèlement dans les différentes écoles dans lesquelles vous êtes passé, avec des parents qui étaient derrière vous, qui essayaient de trouver des solutions. Mais par contre, le monde scolaire, les autorités scolaires, qui elles avaient beaucoup de peine à réagir et puis à s'impliquer dans ce qui était considéré comme des bagarres normales, avec des très très gros guillemets, entre enfants.
Oui, il y avait essentiellement aucune collaboration parce que on ne connaissait pas les conséquences. Aujourd'hui, laisser aller le harcèlement en milieu éducatif, c'est très dangereux puisqu'on connaît les conséquences que ça peut avoir sur l'enfant et sur l'individu même à long terme. Moi, je connais des adultes et d'ailleurs dans mon livre, j'en parle parce que c'est très rare qu'on ait un témoignage d'adulte qui raconte son histoire d'anxiété à l'âge adulte en lien directement avec ses agressions. On va souvent rester sur le témoignage du jeune, de l'enfant, mais j'ai rencontré plusieurs adultes handicapés, et on parle de SALPD ici, mais j'ai rencontré aussi des hommes hétérosexuels qui ont été traités de SALPD en milieu éducatif, et essentiellement, ça a eu les mêmes conséquences pour leur santé mentale. Ils m'ont dit, moi, écoute, Jasmin, je suis pas homosexuel, mais j'étais le SALPD de mon école.
ça veut dire aussi, et c'est ce que vous dites notamment, qu'il y aura des séquelles tout au long de votre vie, malgré les livres, malgré des séances, hein, pour certains, chez les psys. Il restera toujours quelque chose. La preuve, c'est que vous en parlez aujourd'hui et que ça vous tient toujours à cœur.
Moi, j'ai toujours dit que mon âme est en fauteuil roulant. Mais, attention, je suis capable de faire les Paralympiques. Donc, oui, mon âme est en fauteuil roulant, mais je suis extrêmement fonctionnel.
Et Jasmin Roy, dans ce livre, vous nous racontez, sans phare, les années de harcèlement dont vous avez été victime, le long chemin qui vous a permis de vivre avec, parce que, finalement, c'est ça, on vit avec, on n'oublie pas.
Non, on n'oublie pas. On pardonne, par exemple. On pardonne. Moi, je dis tout le temps que le pardon, c'est une libération, en ce sens qu'on n'oublie pas le passé, mais il faut se libérer. Le pardon, pour moi, c'est une libération. Il faut se libérer de la colère, il faut se libérer de la honte, il faut se libérer de la peine. Et quand on s'est libéré de ça, on est capable aussi d'accepter même l'inacceptable à quelque part. On est capable de s'ouvrir aux agresseurs parce que moi, dans ma démarche aussi, je crois sincèrement qu'il faut aussi accompagner les agresseurs parce que je crois que le harcèlement, c'est un problème relationnel. On dit qu'à peu près 7 à 8% des jeunes vont avoir ce problème relationnel, donc ils seront des agresseurs et il faut surtout leur montrer les bons comportements, que la punition ne fonctionne pas très bien dans ces cas-là. Donc il faut vraiment leur apprendre à développer de l'empathie, à développer leurs compétences sociaux et émotionnelles.
Parce que le titre de votre livre est très éloquent. Pour vous, le harcèlement, il commence souvent par des insultes, alors qu'on soit homosexuel ou pas d'ailleurs, ces insultes homophobes?
Oui, il y a à peu près 40% des jeunes garçons qui sont victimes d'homophobie à l'école qui ne seront même pas homosexuels, c'est presque la moitié. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homophobie à l'école ne se manifeste pas de la même façon que l'homophobie en société. Moi, Jasmin, je suis homosexuel, je peux vivre de la discrimination en lien avec mon orientation sexuelle à l'âge adulte, c'est une chose. En milieu éducatif, c'est tous ceux qui sont présumés. Et ce qui est assez exceptionnel aussi qu'il faut comprendre, parce que moi, je travaille beaucoup sur les rapports égalitaires, c'est souvent les garçons qui vont avoir des compétences ou des qualités que par tradition, hein, je dis bien entre guillemets par tradition, on associe plus aux dames, aux femmes, et je crois essentiellement que la journée où les rapports seront beaucoup plus égalitaires hommes-femmes, on va faire un grand pas en lien avec tout ce qui est identité de genre et homophobie.
Alors, l'homophobie, parfois, c'est comme le racisme, mais c'est quand même très différent, parce que l'homosexualité fait peur. C'est ça, le fond du problème, à votre avis?
Je ne sais pas si ça fait peur. Dans certains cas, peut-être. Moi, je crois que plutôt qu'il y a une haine des garçons qui ont des comportements qu'on associe aux femmes. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait se poser de sérieuses questions par rapport à ça. En quoi avoir une qualité de femme si on est un garçon, ça nous rabaisse, ça fait de nous moins qu'un autre garçon. Je crois qu'il y a une réflexion à faire avec ça, mais l'homophobie, c'est du racisme. On étiquette quelqu'un et puis on le rabaisse en lien avec son orientation sexuelle ou l'orientation sexuelle présumée, qu'on va dire souvent en milieu éducatif.
D'ailleurs, vous le dites hein, dans votre livre, dans la plupart des écoles, on va dire en Occident, le racisme, c'est un point qui est abordé pendant les cours. On explique ce que c'est, on inculque des notions antiracisme, mais par contre, l'homophobie, c'est quelque chose qui est complètement absent finalement de la majorité des programmes scolaires. C'est quelque chose dont on ne parle pas à l'école.
Non, on en parle nous de plus en plus. Depuis que la Fondation a vu le jour au Québec, nous, on remet chaque année un prix à une école qui fait des actions de façon prolongée, hein, parce qu'on dit que faire des actions momentanées, avoir une conférence sur la réalité homosexuelle, c'est pas mauvais, mais il faut que ça fasse partie du curriculum de l'école et qu'on l'intègre à toutes les formes de diversité. Mais on est plus réticent à intervenir sur l'homophobie que sur le racisme. Et c'est ce qu'on a souvent dénoncé, nous. On va laisser des injures comme « sale pédé » dans les cours d'école, en voulant dire « bof, tout le monde le dit ». Mais si quelqu'un va dire « sale nègre » ou une autre nationalité, c'est rapidement réprimé. Enfin, chez nous, je sais pas chez vous. Donc, on intervient parce qu'on dit « oups, c'est du racisme, c'est clair, c'est net ». Tandis que « sale pédé », bon, on l'utilise tellement, les adultes vont vous dire « bon, je l'entends tellement que je... »
On n'y fait plus attention.
Bah non, c'est tout à fait normal.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des pays qui sont plus avancés, où on fait plus d'avancées? Est-ce que vous avez l'impression qu'au Québec, au nord de l'Amérique, on a plus avancé dans ce domaine-là qu'en Europe?
Ben nous, on est privilégiés. D'ailleurs, si on parle de la réalité trans, il y a une loi maintenant, à partir de 12 ans, l'enfant qui ne se sent pas dans le bon corps, dans le bon sexe, il peut décider de changer de nom, donc d'identité, à partir de l'âge de 12 ans. C'est un avancé important parce que il faut regarder les études. Nous, chez nous, on a une chaire de recherche sur la violence et la sécurité en milieu éducatif. On met des millions dans cette chaire-là. Si on les écoute pas ensuite et on n'applique pas les recommandations de ces chaires de recherche, on est un peu stupide. Donc, ce qui a été recommandé, c'est d'accompagner les gens plutôt que d'avoir une répression du comportement, parce que l'être humain ne fonctionne pas très bien quand on réprime ses ambitions, ses goûts. Ça crée de la violence, ça crée du désespoir. Donc, il faut surtout travailler, surtout quand avec des enfants. L'enfant est en développement. Il faut l'accompagner dans son développement, dans ce qu'il choisit. Est-ce que à 12 ans, après avoir consulté plusieurs psychologues, un enfant trans peut changer d'identité, oui, pas nécessairement de sexe tout de suite, mais d'identité, on dit que oui, et on l'accompagne dans ça. Et c'est la même chose chez les... Là, on parle beaucoup des homosexuels, mais il y a des bisexuels. Les bisexuels, nous, présentement, à l'heure actuelle, au Québec, ils se sentent mis un peu à part, parce qu'on parle souvent de trans, d'homosexualité, mais très peu de bisexualité, comme, mais pourtant, il y a beaucoup de bisexualité dans nos sociétés modernes.
Jasmin, on vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques instants avec nous ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Je rappelle que votre livre, dernier livre, Sale PD, sort aux éditions de l'Homme. On mettra évidemment toutes les informations, tous les détails sur la page de Format 3 sur notre site internet. Belle journée et bon retour dans la belle province.
Merci, bonne journée, au revoir.
Bonne journée.